Ou du Damel.
La version Nord-Sud. Un concert de Radio France.
À vivre les 13 et 20 avril à Pleyel.
Avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France.
Tous nos concerts au 01 56 45 16.
Et sur concert.radiofrance.fr.
France Inter. La différence.
Il est 15h04. On retrouve là-bas et j'y suis avec Daniel Mermet.
C'est tout chaud. Je viens d'entendre François Morel. Cette association entre Hugo et Mélenchon, quel bonheur. Ça fait du bien d'entendre ça. Et la musique du troisième homme, ça me chauffe le cœur. Monsieur Morel, je me permets de vous faire de gros bisous. Marie-Paul de Villejuif. Au revoir.
Monsieur Augustin de Romanet, vous parliez ce matin sur France Inter. Je vous cite. La démocratie a un prix. Singapour est l'État le mieux géré au monde et ses habitants ne se plaignent pas des rémunérations de leurs ministres. Fin de citation. Pardonnez-moi, monsieur, mais votre description de Singapour est incomplète. Vous avez omis de rappeler un petit détail, à savoir que Singapour est une dictature militaire, que la presse y est censurée et que les élections n'ont là-bas de démocratique que le nom. Je suis étonné, monsieur de Romanet. Ne vous a-t-on pas appris cela, Léna ? Jürgen de Rodez.
Aujourd'hui, dans notre république laïque, les écoles publiques et privées sont ouvertes, les administrations, les magasins aussi. Mais, tiens, la bourse, elle, est fermée. Moi, je me pose plein de questions. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, nos spéculateurs ? Ils se retiennent. Ils se retiennent, ils vont peut-être faire le chemin de croix à genoux, non ? Pour faire pardonner leurs péchés. Car quand même, le bonhomme, là, qui s'est fait crucifier, il prenait la pauvreté, le partage, la solidarité. Ou peut-être, est-ce qu'ils en profitent simplement pour aller faire leurs courses, acheter l'agneau pascal, des chocolats, dont on va tous se gaver dimanche et lundi. Et puis, ils retourneront tranquillement, boursicoter, la paix dans l'âme, mardi. Ça veut dire spéculer sur la misère, le chômage. Allez, à bientôt.
Bonjour, merci à François Ruffin pour ses reportages avec les salariés d'Arkema, c'est intéressant à suivre. Je voulais juste apporter un petit complément d'information concernant ce pôle vinylique d'Arkema et préciser à quoi ça sert, est-ce qu'on y fabrique en fait, puisque ça manquait me semble-t-il dans le reportage. Donc le pôle vinylique d'Arkema fabrique essentiellement des chlorures de vinyle qu'on connaît dans le grand public sous le nom de PVC. Alors qu'est-ce que c'est que les produits PVC ? Ben, c'est des produits qui sont classés cancérigènes par l'Union européenne et par le Centre international de recherche sur le cancer. Ils sont liés notamment au cancer du foie et ils présentent aussi des caractères mutagènes et reprotoxiques. Et ça concerne bien sûr d'abord les travailleurs de ces usines chimiques, dont beaucoup souffrent de cancer du foie. En France, aux États-Unis notamment. Ça concerne aussi évidemment tous ceux qui sont exposés à la pollution, notamment par l'eau de boisson des déchets issus du PVC. On peut lire à ce sujet la note éditée d'ailleurs par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, l'INERIS, sur le chlorure de vinyle. Le PVC est souvent associé aux phtalates pour rendre le plastique souple, vous savez, dans les jouets ou les objets de la consommation courante. Et les phtalates sont cancérigènes, mutagènes et responsables d'anomalies de la reproduction masculine notamment. Enfin, l'incinération du PVC génère des dioxines qui rendent malades et qui tuent les voisins des incinérateurs, comme à Gilly-sur-Isère en Savoie ou bien près de Besançon, et y compris d'ailleurs avec des incinérateurs de nouvelle génération. Voilà, c'est tout ça aussi que défendent les salariés du pôle vinylique d'Arkema et ça me semblait important de le préciser à tous les auditeurs. Salut à tous.
Ouais, salut à toute l'équipe. En entendant le reportage hier de Ruffin sur les gars d'Arkema, ça m'a fait penser que quand Ruffin était dans la région lyonnaise pour les reportages, il a participé, et j'ai eu la chance d'y être aussi, à un débat justement avec des représentants syndicaux de Arkema, je crois que c'était à Vaux-en-Velin. Et moi, ce qui m'a le plus perturbé, c'était vraiment de voir à quel point ces ouvriers ont un savoir-faire et à quel point ils sont dégoûtés que, juste pour une histoire de pognon, on est en train de broyer leur savoir-faire. Alors certes, c'est le savoir-faire des gens qui étaient là devant moi, mais c'est aussi le savoir-faire de ceux qui étaient là avant. Je pense qu'il y a vraiment un mépris total de la classe ouvrière et de la réalité de la notion de travail. Enfin, on attend la suite avec impatience, voir comment ils vont être reçus par les potentiels candidat à la présidentielle. Pour ce qui concerne les gens du Sud-Est, on se retrouve dimanche 8 à la Seine pour le Trafalgar pour dire non à l'exploitation des gaz de schiste en mer Méditerranée. Ciao, viva, portez-vous bien. Un bisou aux Toulousains.
Et ben voilà, on continue effectivement aujourd'hui avec les salariés, les syndiqués de cette entreprise Arkema, le pôle vinylique de la grande entreprise chimique française qui est menacée de rachat par un repreneur qui n'inspire absolument aucune confiance aux salariés et aux syndiqués que nous avons rencontrés hier et qui nous ont expliqué pourquoi aujourd'hui ils veulent, c'est le moment ou jamais, rencontrer les potentiels candidats, comme dit notre auditeur. Et voilà, rendez-vous a été pris, vous avez entendu hier par téléphone, ça n'a pas été facile, mais les voilà qui arrivent à Paris dans l'espoir d'être entendus et de dialoguer sur l'essentiel, qui est évidemment l'emploi, qui est le chômage, qui est la destruction de l'industrie dans ce pays, la désindustrialisation qui est devenue le mot qui a grandi aujourd'hui, qui est l'essentiel dans cette campagne. Donc les voilà qui arrivent aujourd'hui avec François Ruffin à Paris dans l'espoir de dialoguer avec les candidats ou avec leurs représentants. C'est une occasion, évidemment, les réponses des candidats, vous les devinez, vous les entendez à longueur d'antenne. Mais on a voulu aujourd'hui rendre palpable la distance qui peut exister entre le terrain, les gens, tout simplement, les salariés en l'occurrence, et ceux qui se présentent pour les représenter. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Demandez à la Sécurité sociale qu'elle paye les retraites le premier du mois et non le 8. Cette proposition de Nicolas Sarkozy est l'exemple même de toutes les mesures qu'il a prises depuis 5 ans. En apparence, ça paraît bien. Mais derrière la façade, il y a toujours un petit cadeau à ses amis financiers sur le dos des finances publiques. En effet, on apprend à France Inter que la Sécurité sociale ne reçoit les cotisations patronales que le 5 du mois. Pour payer les retraites au premier du mois, elle va devoir emprunter aux banquiers la somme manquante pour 5 jours et leur payer les intérêts qui vont avec. Et creuser donc encore plus le fameux trou. À moins que les banquiers ne prêtent à 0% à la Sécurité sociale, mais ça, il ne l'a pas promis le président candidat.
Bonjour. Ben voilà, Sarkozy, au moins, il prend des mesures, lui. Il va payer les retraites, mais 700 euros de retraite, je vais les toucher le premier, au lieu de les toucher le 8. Ça fait que je serai fauché le 15, au lieu du 21. Ça, c'est bien. On voit bien qu'ils vivent avec 700 euros, qu'ils peuvent vivre avec 700 euros. Allez, au revoir, c'est Jacqueline.
Tout commence en 2006. Quand Arkema quitte le giron de Total et fait son entrée à la Bourse de Paris.
Avant, les entreprises mettaient en place des plans sociaux, des réorganisations, des restructurations quand l'entreprise avait des difficultés financières. Et on sait tous aujourd'hui que les entreprises mettent en place ces systèmes-là pour avoir des plans de performance plus importants.
Porté par un dynamisme et une vision engagée, Arkema se renforce.
Entre 2006 et aujourd'hui, on a perdu 4000 salariés.
Le groupe oriente sa stratégie sur la réduction des coûts.
Bonjour, bienvenue sur Allo Finance. Arkema qui a dévoilé des résultats records, les meilleurs jamais enregistrés.
En l'espace de 5 ans, Arkema s'est transformé en profondeur pour devenir un groupe solide et ambitieux. Renforcé par sa politique de cession et d'acquisition, sa compétitivité est restaurée et son portefeuille d'activités rééquilibré.
On est un exemple type, je pense, de la financiarisation de l'industrie.
Oui, bonjour, Monsieur Chex, je me présente, je suis délégué du personnel d'une entreprise de la chimie Arkema. Le 27 mars prochain, nous serons sur Paris un certain nombre d'élus CGT et nous comptons frapper aux portes des QG de campagne des candidats à l'élection présidentielle pour vous interpeller dans le cadre de votre programme sur l'aspect industriel par rapport à notre actualité et la cession du pôle vinique d'Arkema pour 1 euro à un repreneur. On aurait souhaité être reçu.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la messe, j'y suis avec François Ruffin, Arkema et les vautours.
Flight number 2, arriving from...
On va Daniel, aujourd'hui mardi 27 mars. On est à Paris, à la gare de Lyon, et on attend le train en provenance de Lyon justement, avec Didier à l'intérieur et d'autres camarades de divers sites Arkema de France qui viennent aujourd'hui pour faire avec nous la tournée des QG de campagne, du Front de Gauche, du Parti Socialiste, du Modem, de l'UMP. Pour voir si après Usinor, Péchiné, on va liquider le premier chimiste français ou bien... Salut, Didier, ça va ? Bon voyage ?
Il a du retard en plus. Ouais. Alors, où sont les copains ? Je sais pas. Ils doivent être dedans, je pense.
Donc là, on entre dans la brasserie.
Ah bah tiens, et voilà.
Bonjour, François.
Pascal.
Thierry.
Eh ben, on va boire le café, là. Donc François va nous suivre pour la journée. Donc il est France Inter. Mélenchon ne pourra pas nous recevoir parce qu'a priori, il a un timing hyper serré. Ça ne reçoit pas son directeur de campagne.
Ah, Didier, je te dis tout de suite, je suis très déçu que Mélenchon ne reçoive pas. Alors je vais rentrer.
Il y a Christelle de Montes qui m'a envoyé un SMS. Donc on sera bien reçu à 2h30 au QG d'Hollande par André Rousset. Alain Rousset.
C'est leur spécialiste industrie, Alain Rousset.
Et puis bon, bah l'UMP, j'ai amené le mail. Et puis on va aller taper à la porte. T'as réussi à trouver l'adresse, François ? Eh ben on va y aller. On va aller au QG de Sarko, et puis on verra bien. En plus, ça tombe bien, on a eu les chiffres du chômage hier. On va pouvoir interpeller notre cher président candidat.
Bah oui, c'est le moment, le débat, le dialogue, les programmes, les projets. C'est très très important. Il y a une demande politique actuellement. On voudrait bien que ce qui torture, ce qui hante, ce qui fait rêver aussi. Soit pris en compte et une représentation, un débouché politique, que des changements interviennent. Il y a un grand espoir. Une élection comme celle-là, effectivement, soulève de grands espoirs. Et puis on voit, effectivement, ces QG de campagne où les candidats ont l'air tellement proches du petit peuple, se mêlant à la foule, serrant des mains, discutant qui avec le poissonnier, qui avec le boucher, qui avec les enfants des écoles, qui avec les ouvriers, etc. Ces gens sont si proches que les salariés, les syndiqués d'Arkema se sont dit, ben voilà, nous on est à Lyon, là à Saint-Fons, on a des problèmes, on est très inquiets sur l'avenir de l'entreprise qui risque d'être vendue, qui est en cours de vente à quelqu'un en quel on n'a absolument pas confiance, qui ressemble tout à fait, on hésite entre un requin ou un vautour, et on sait ce que ça veut dire, c'est qu'ensuite, eh bien, plan social, mais comme ces vautours et ces requins sont très très malins, on risque de se retrouver avec un plan social et une main devant et une main derrière, c'est-à-dire avec une absence totale d'indemnité. Oui, c'est ça la barbarie financière, la financiarisation de l'industrie. On en a parlé si souvent qu'aujourd'hui c'est devenu quelque chose de très très clair parce que c'est vécu partout. C'est pas parce qu'on théorise là-dessus et qu'on fait des grandes perspectives historiques, de grands rappels historiques. Non, c'est parce que c'est vécu par tout un chacun dans la vie quotidienne et dans celle, par exemple, de ses salariés et de leurs représentants qui sont là et qui entendent être entendus, tout simplement, d'ici à 16h dans là-bas, si j'y suis. Espérons qu'ils le seront entendus. C'est Arkema et les vautours.
Millions d'habitants en France, combien vont-ils aller à l'urne? Telle est la question que se posent les candidats. Combien vont-ils donc aller voter pour moi? Votez pour moi, votez pour moi, votez pas lui, votez pas lui, pas celui-là. Votez pour moi, je suis mieux que cet homme-là. J'ai plein d'idées et plein de projets à concrétiser pour vous messieurs qui avez des industries. Votez pour moi, on en reparlera. Votez pour moi, on en discutera. Élisez-moi et on y réfléchira. Élisez-moi et on y repensera. J'ai des projets concrets à vous proposer. Je pense bien sûr aussi à l'égaliser, à l'économie, à l'agriculture, au commerce extérieur, à l'écologie, aux personnes âgées, aux agriculteurs, aux émigrés, aux animaux, aux navigateurs, aux enfants de cœur, à la tête à Toto, à ce bureau tout beau qui m'attend à l'Élysée. Votez pour moi, votez pour moi, votez pas lui, votez pas lui, votez pour moi, je vous en supplie. Votez pour moi, votez pour moi, votez pour moi, votez pas lui, je vous en supplie. Votez pas lui, votez pas lui, pas celui-là. Votez pour moi, pour moi, pour moi.
Honneur de la gauche, période de fête. Honneur de la gauche, période de fête.
Oui, c'est là.
Là, on vient de recevoir la note. Un café, c'est 2,60 €. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez appris que les 10 sites Arkema, les 2000 salariés du pôle vinique de Arkema, valaient moins qu'un café pris à la brasserie de la gare de Lyon à Paris?
À l'heure actuelle, ça vaut mieux être un café qu'un salarié chez Arkema, quoi. C'est quand même un café, ça a au moins une valeur. C'est au moins 1 €...
2,60 €.
2,60 € au moins. Parce qu'un salarié d'Arkema, il n'a aucune valeur, quoi. On n'est même pas vendu pour 1 € symbolique, puisqu'Arkema a même donné 96 millions d'euros à Clash pour repartir sur une trésorerie et habiller la mariée. Donc, je veux dire, c'est même pas vendu pour 1 € symbolique. On vaut même pas 2,60 € à l'heure actuelle, quoi. Il va falloir que ça change, quoi.
Vous êtes tellement improductif, tellement peu rentable, tellement fainéant, tellement coûteux en charges sociales et puis tout ça, que non seulement on lui donne pour 1 € symbolique, mais en plus, qu'en plus il faut lui donner 96 millions avec pour qu'il veuille bien de vous, quoi.
À notre avis, ça va servir à faire encore des coupes franches et des plans sociaux dans la société que sera Amarante, mais certainement pas pour s'en servir pour développer l'outil industriel.
Là, vous êtes 4. On va aller visiter 4 QG de campagne. Donc ça veut dire que parmi vous, il y a un partisan du Front de Gauche, un partisan du Parti Socialiste, un partisan du Modem et un partisan de Nicolas Sarkozy. Pour Nicolas Sarkozy, Régis peut-être?
Non, moi je t'ai quand même à signaler que je suis partisan et militant au Front de Gauche. Il faut vraiment que ça change, il faut vraiment que... Et je pense que ça ne peut passer que par ce qu'on appelle nous le vote utile. Et le vote utile, c'est de voter Mélenchon.
Il y en a d'autres ici qui ont la mélanchonite aiguë ou pas?
Ça commence à... Mais je ne suis pas seul, je dirais. Ce qui arrive actuellement à l'industrie française, à notre combat syndical, on a tous à peu près le même constat, c'est plus suffisant. Il faut vraiment que nous, syndicalistes, on réinvestisse le champ politique.
C'est-à-dire que depuis 30 ans, il y a des batailles industrielles qui sont perdues. Vous dites, le mener sur le terrain syndical, c'est plus suffisant, il faut le mener sur le terrain politique aussi.
C'est clair, depuis 30 ans, moi je viens d'un site, je suis maintenant sur Fos-sur-Mer, mais je viens d'un site au nord de Paris, qui était Villers-Saint-Paul. Quand j'ai commencé en 1979, il y avait plus de 2000 salariés. Et j'ai fini en 2008, zéro. Pendant 30 ans, on s'est battu sur le reculoir, on a vu tout se détruire, alors on a résisté. On a résisté, mais la résistance maintenant passe par l'action politique. Il n'y a que l'action politique et il n'y a que le politique qui va nous aider. Et avec les genres de vautours qui arrivent, qui sont purement des financiers, nous, syndicalistes, ça ne va pas suffire. Il va falloir légiférer, il va falloir les empêcher de nuire. C'est clair.
Bon, alors on va aller les voir, les politiques.
Voilà.
Là, on est dans le métro, Thierry. Ligne 11. Direction mairie des Lilas, le QG de Mélenchon.
Ah bonjour.
Donc déjà, première information, Martine Billard, numéro 1, ex-écho du parti de gauche, prend le métro pour aller au siège du QG de campagne.
Oui, je prends toujours le métro parce que quand on travaille et qu'on vit à Paris, il faut être timbré pour prendre autre chose que le métro, hein, franchement.
Donc c'est pas la peine de vous demander le prix du ticket de métro à vous.
Bah non, mais je suis comme tout le monde, j'ai un pass Navigo.
Je tiens à préciser, François, le prix d'un ticket de métro à Paris, c'est plus cher que le pôle Vinique d'Arkema quand même, hein, puisque c'est 1 euro. Oui. C'est 1800 salariés en France, 2600 salariés dans le monde.
Donc c'est dramatique. Non mais moi, parce qu'on avait déjà entendu, c'est à l'époque, je crois que c'était Thomson, vous avez voulu aussi vendre 1 euro, c'est le mépris qu'ont un certain nombre de puissants vis-à-vis des salariés, des travailleurs et vis-à-vis des entreprises. C'est-à-dire pour eux, c'est comme au Monopoly, quoi. Mais nous, c'est pas un Monopoly, ce sont des gens, ils existent, ils travaillent, ils ont envie de vivre de leur travail, pas d'être au chômage. Et en plus, maintenant, vous n'arrivez même plus jusqu'à la retraite avec le chômage. Donc,
On fait l'interview dans le métro. Vas-y, expliquez votre situation. Vous connaissez ?
Mais oui, je connais quand même. Je suis ce qui se passe, même si c'est une entreprise où je n'ai pas pu aller. Mais quand même, je suis absolument, parce qu'en plus, ce qui est passionnant dans ce qui se passe en ce moment dans beaucoup d'entreprises, c'est qu'il y a des batailles, pas seulement contre la fermeture, pour avoir plus d'argent, mais des batailles pour un autre projet. Et des batailles pour maintenir l'industrie en France. Parce que tous ceux qui nous ont expliqué qu'on pouvait faire un pays sans industrie, aujourd'hui, on voit ce que ça donne. Parce qu'on ne voit pas comment... Regardez, on est dans le métro. Le métro, je ne sais pas, il faut de l'acier, il faut du textile, il faut du plastique, il faut plein de choses. Donc il faut bien le produire, tous ces matériaux dont on a besoin. Et donc on préfère que ce soit produit dans tous les pays, étalé dans quelques coins de la planète, où en général d'ailleurs les travailleurs sont hyper exploités, mal payés, l'environnement un désastre, et ensuite ça fait des kilomètres sur toute la planète. Donc ce sont des belles batailles.
Là, dans leur cœur, 1800 salariés en France, 2600 salariés dans le monde, 10 sites, un savoir-faire qui est centenaire, doit être vendu à un financier américain qui s'appelle Gary Klesch pour 1 euro symbolique, et en plus on lui donne 96 millions d'euros. Qu'est-ce qu'il y a dans le programme du Front de Gauche qui permettrait d'aller contre ça?
On prend l'entreprise tout simplement et on la rend travailleur pour faire un autre projet. C'est la seule solution, parce que quand les patrons ne se préoccupent plus de produire, mais se préoccupent uniquement de faire du fric, à un moment donné, faut les virer. Ils peuvent rien faire sans les travailleurs. C'est les travailleurs qui savent produire, c'est pas le patron. Donc on prend l'entreprise.
Alors, je veux quand même rappeler que les salariés peuvent se passer d'un patron. Un patron ne peut pas se passer de ses salariés.
On descend ici. Là,
c'est le terminus de la ligne.
On descend ici à Mairie des Lilas. On va continuer en marchant. Hein. Allez. Vous croyez pas que je vais vous laisser tranquille comme ça? L'une des remarques que me faisait toute l'équipe de la CGT, c'est que c'est une industrie qui demande beaucoup d'investissement. Et donc, on ne peut pas la mettre en société coopérative en lui disant « Voilà, vous allez tourner avec même quelques millions d'euros. » Là, c'est par centaines de millions d'euros. C'est inscrit dans toute une filière où il y a Total, devant et derrière, qui pourrait détruire la SCOP d'un claquement de doigts. Donc, le projet de coopérative, ça leur paraît pas très pertinent.
Oui, mais attendez, le projet de coopérative, c'est pas partout. Il y a sur des productions où, effectivement, c'est infaisable, vu les masses de financières.
Alors, on va prendre l'escalator maintenant, il est en panne. On prend l'escalier.
Ça, c'est souvent dans le métro maintenant. Hein. Parce qu'aussi, ils ont externalisé l'entretien des escalators. C'est plus la RATP, c'est des boîtes privées. Donc, on dépend de la boîte privée. Ce qu'il faut, dans ce cas-là, la chimie, c'est fondamental. On en a besoin, de la chimie. eh ben on nationalise, qu'est-ce que vous voulez? On n'est pas des fous de la nationalisation, mais quand c'est, ce sont les outils nécessaires au fonctionnement du pays qui sont en jeu, eh ben on prend nos responsabilités.
Alors là, on était paumés, on savait pas trop où était le QG de campagne de Mélenchon, mais vu qu'on est tombé sur vous, on va y aller les yeux fermés maintenant, Martine Billard. Donc là, on est au QG de campagne de Jean-Luc Mélenchon à l'usine. C'est le premier QG qu'on fait dans la journée, mais il va y en avoir quatre. Vous êtes mis en concurrence. On pratique ici la concurrence libre et non faussée pour voir quel est le meilleur programme adapté à la situation de Arkema, avec un passage normalement au siège du Parti Socialiste cet après-midi, de l'UMP et du MoDem.
Eh ben, donc moi, je suis François Delapierre, je suis le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon.
Je vais me présenter, ouais. Donc Didier Chex, hein, je suis représentant du personnel à l'usine d'Arkema Saint-Fons, CGT. Donc dans le cadre de la campagne, on vient vous rencontrer. On a rencontré Jean-Luc déjà le 7 février, il est venu à l'usine de Saint-Fons, un des sites concernés par la cession du pôle vinique d'Arkema à un repreneur qui s'appelle Gary Klesch pour 1 euro symbolique, avec au passage quand même un chèque de trésorerie d'une centaine de millions d'euros. Il s'appelle Gary Klesch. À chaque fois qu'il a repris une activité industrielle, c'était pour la fermer. L'entreprise qu'il a gardée le plus longtemps aujourd'hui, c'est de l'ordre de 4 années.
Si le 7 mai au soir, Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République, si au mois de juin, à la fin des législatives, il y a une majorité front de gauche à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui change pour les salariés d'Arkema?
La chance qu'on a, c'est qu'il y a des lois. Quoi. Par simple décret, on peut interdire la vente d'une entreprise dès lors que ça met en cause un intérêt stratégique du pays. Voilà. C'est une loi qui date, je crois, du 19e siècle. Hein. Les besoins stratégiques sont protégés. Bon. Donc là, on est typiquement dans un besoin stratégique, parce que si on rentre dans la destruction de la filière PVC en France, c'est une dépendance qui est considérable. Quoi. Donc on peut bloquer par simple décret la vente. Bon.
Donc, ce que vous voulez dire, non. François Delapierre, il n'y a même pas besoin de faire de nouvelles lois, il suffit d'appliquer les lois qui existent.
Non, je ne dis pas ça. Là. Dans l'espèce, on peut bloquer ça tout de suite. Après, ce qu'il faut engager, c'est deux choses, deux fronts. Le premier front, c'est donner du pouvoir aux salariés sur les décisions des entreprises pour qu'ils soient les garants de l'intérêt général face à la finance. Concrètement, que pour décider du repreneur, c'est pas le patron qui décide du repreneur. Donc dès lors que les salariés ont fait le boulot, regardez, moi, ils ont fait un travail admirable. Ils sont allés même lire des trucs en anglais, rechercher aux États-Unis des documents de, si j'ai bien compris, de la justice américaine qui montre les liens avec Bernard Madoff. Bon, ils ont fait un boulot que la boîte a pas fait. Parce qu'ils s'en fichent, la boîte, la seule question, c'est comment je me débarrasse. Ça, c'est les salariés qui peuvent faire ce boulot. Donc, il faut leur donner le pouvoir de dire, eh ben non, le repreneur, on n'en veut pas. Il en faut un autre. Et ensuite, deuxième chose qu'on fait, c'est un plan écologique pour le pays, donc dans lequel il y a une application filière par filière. Donc, comment est-ce qu'on traite la question de la chimie en France, comment on relocalise un certain nombre de productions qui ont été délocalisées parce que la chimie, elle a été démembrée par logiques financières. Hein. Ça, il faut mettre les gens autour d'une table et à un moment donné, que l'intérêt général s'invite. Ça peut pas être qu'est-ce qui rapporte le plus à l'actionnaire. Donc, il y a des réponses de long terme à faire. Mais tout de suite, on peut protéger les salariés contre des projets de cet ordre.
J'adore. Regardez voter les gens. Regardez voter les gens. J'adore, 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 j'adore. Les institutrices, puéricultrices, administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs. J'adore. Les gens, et de temps en temps, je coupe le champ. Et je remets Mélenchon. Je coupe le champ. Je remets Mélenchon. Je recoupe le champ. Et attention. Je remets Mélenchon. Les gens arrêtent de déprimer, ils recommencent à espérer, ils se mettent à manifester et les choses vont enfin bouger. Alors je leur dis battez-vous, rien n'est à eux, tout est à nous, tout ce qu'ils ont, ils l'ont volé, nous allons tout récupérer. J'adore. Regardez voter les gens, ah je trouve ça fascinant, je coupe le champ.
Bon alors là il y a Pascal qui a déplié le plan de Paris pour chercher l'avenue de Ségur, là où se trouve le siège du Parti Socialiste.
Rue du Bello.
Allez, c'est là-bas, c'est là-bas.
Ah, donc, c'est vraiment chez Provincio qui débarque à la capitale quoi. On est assez limité, on est des ouvriers à la base. Hein. On se rend au QG de campagne de François Hollande. Vous avez vu le programme du Parti Socialiste ?
Moi, ce que j'ai retenu une chose de la part du candidat Hollande, il avait dit que son principal adversaire, c'était le capital et la finance. Donc ça tombe bien, puisque nous, le projet Amarante correspond bien à cette problématique-là, du capital et de la finance. Donc on va interpeller le QG de campagne de M. Hollande pour savoir justement ce qu'il pense.
Comment on va combattre cet adversaire ?
Comment on va combattre cet adversaire ?
Donc là, on passe. Il y a des plaques François Hollande 2012. On entre. Il y a un portrait géant de François Hollande.
Bonjour. Ce qui interpelle tout de suite, là, c'est l'environnement. On n'est plus dans le même contexte. Hein. C'est plus le même environnement qu'au front de gauche. Hein. Là, on est dans un très beau bâtiment. On constate tout de suite que les moyens ne sont pas les mêmes.
La photo de François Hollande est plus grande que le sacre de Napoléon au Louvre.
Oui.
J'ai l'impression que le costume cravate est exigé ici. Mais bon, nous, on est simplement que des petits syndicalistes de CGT, donc on vient avec notre manière d'être.
Voilà les quatre petits syndicalistes de la CGT, c'est les salariés d'Arkema, vous avez compris, l'entreprise est menacée d'être vendue, c'est même très engagé, à quelqu'un qui n'est pas entièrement recommandable et qui fait très peur à ses salariés, comme aux 1800 salariés de la branche vinylique de cette entreprise chimique. Ils essayent de se battre comme des fous contre le monstre, le vautour, le requin de la finance. Et là, vous avez compris, ils sont venus ce jour-là, ce 27 mars, à Paris pour rencontrer les QG, ceux qui, dans les QG, peuvent leur donner une réponse à leurs questions. C'est le moment ou jamais.
Là, on se trouve au QG de campagne de François Hollande. Vous êtes un peu le monsieur industrie de François Hollande. On est venu ici avec des délégués syndicaux CGT du groupe Arkema, de quatre sites Arkema. Il y a 10 sites qui doivent être cédés, 1800 salariés. 1 euro symbolique à un repreneur qui s'appelle Gary Klesch. Gary Klesch, il y avait le document là que je voyais dans la pochette de Thierry. Son siège Klesch Limited... Klesch Group Limited, suite 3B, 215 Old Bakery Street, Valletta, VLT 1451, Malta. Malte, paradis fiscal. Apparemment, il est aussi à Jersey. Bon, le 6 mai au soir, François Hollande est élu. Est-ce qu'il peut y avoir la garantie pour les salariés de Arkema que leurs 10 sites, ces 1800 salariés, ne seront pas repris par un financier comme Gary Klesch?
Ouais, je trouve que vous posez une question de telle manière que vous dites à François Hollande, est-ce que vous, François Hollande, vous pouvez vous substituer au PDG de l'entreprise? C'est ça votre question? Votre question, c'est ça. Hein? Donc, si vous posez la question comme ça, on ne va pas pouvoir régler le problème, rassurer les salariés et assurer un développement industriel.
Moi, je pense que si vous dites aujourd'hui, on garantit aux salariés que un financier comme Clèche, qui passe par un certain nombre de paradis fiscaux, ne pourra pas reprendre une entreprise qui est centenaire comme le pôle vilénique d'Arkema. Au contraire, les salariés sortiront de cette réunion extrêmement rassurés.
Oui, sauf que il n'est pas possible, comme ça, d'une manière spontanée, de créer des fonds et des repreneurs qui investissent sur le long terme, fassent les investissements nécessaires, se lancent sur une aventure industrielle autour d'un pôle vinylique. François Hollande ne peut pas arriver et dire « Demain, je rase gratis ». Il serait irresponsable.
Je cherche à bien comprendre, Monsieur Rousset.
Je vais essayer de vous expliquer. Est-ce que l'on peut interdire à Arkema de céder le pôle ? La loi, aujourd'hui, ne le permet pas. Et demain, la loi ne pourrait pas le permettre dans nos institutions, notre constitution et l'Europe. Donc il y a tout un plan industriel à monter.
Attendez, moi, je reviens à ma question quand même si elle ne vous plaît pas. François Hollande dit quand même, mon adversaire, c'est la finance.
Ouais.
Là, on a un financier qui, alors j'ai dit Malte, j'ai dit Jersey, je peux ajouter le canton de Zoug en Suisse, ou là où il est domicilié. Juste un oui ou un non. Il est possible que Gary Clèche...
Non, mais un oui ou un non, c'est... Posez la question, allez-y.
Mais il est possible que dans les semaines qui suivent, y compris l'élection présidentielle législative, Gary Clèche hérite du pôle vinylique de Arkema.
Enfin, je ne sais pas si vous avez suffisamment d'argent ou si les organisations syndicales ont suffisamment d'argent pour être une alternative à Clèche. C'est trop facile, pardon de le dire. C'est trop facile.
Mais attendez, j'ai une alternative à proposer. Là, on dit, voilà les 10 sites, voilà 1800 salariés, et on vous donne en plus 96 millions d'euros. Pourquoi c'est pas l'État qui vient dire, écoutez, moi je prends, je renationalise le pôle vinylique.
Parce que l'État n'est pas compétent pour gérer des entreprises. Chaque fois qu'il l'a fait, ça a été une catastrophe. Mais vous voulez revenir à l'Union soviétique dans vos questions ? L'Union soviétique l'a fait.
Non mais
L'Union soviétique que vous proposez. Ça sert à rien de poser des questions comme ça. Je veux dire, on n'est pas dans le concret. On n'est pas dans le... Non mais...
C'est concret.
Je voudrais pas...
concret. Ça s'est fait... Le programme de 1981 de François Mitterrand était quand même pas l'Union soviétique.
L'Europe a changé. Les contraintes légales et réglementaires ont changé.
Pour Monsieur Rousset, puisqu'on arrive au terme, j'ai entendu monsieur qui disait que Monsieur Rousset avait des engagements. Moi, j'ai une question importante. Gary Clèche, pour nous, c'est un vampire. Et les vampires n'aiment pas la lumière. Donc nous, ce que l'on demande aujourd'hui d'un candidat comme François Hollande, dans le moment de la campagne électorale, c'est qu'il mette en lumière ce qui se passe chez Arkema avec ce Gary Clèche, qu'il fasse fuir ce Gary Clèche. Et Gary Clèche, je vous dis, c'est un vampire, il n'aime pas la lumière. Vous le mettez en lumière, il partira. En Italie, les salariés l'ont chassé. Il a voulu racheter une raffinerie à Eni. Les salariés l'ont chassé à coups de bâton. Nous lui disons, va-t'en. Donc nous comptons, y compris sur le candidat, il n'est que candidat pour le moment, mais qu'il participe à ce que les salariés font aujourd'hui dans l'action de ne pas voir le pôle vinylique disparaître.
Alors, est-ce que François Hollande a une gousse d'ail pour faire repousser le vampire Gary Clèche?
Écoutez, je transmettrai fidèlement ce message.
Je vais me faire ramasser par Guillaume Mermet et l'émission. Là,
Daniel Mermet. Est-ce que l'on peut interdire à Arkema de céder le pôle ? La loi ne le permet pas. Et demain, la loi ne pourrait pas le permettre. François Hollande ne peut pas arriver et dire « Demain, je rase gratis ». Il serait irresponsable. Mais vous voulez revenir à l'Union soviétique dans vos questions ? C'est l'Union soviétique que vous proposez. Ça sert à rien de poser des questions.
Alors là, on sort du QG de campagne de François Hollande. Et alors, convaincu ?
Ah, pas vraiment. Moi, j'en retire qu'une seule chose. Il est urgent d'attendre. On peut au moins soutenir, ne serait-ce que dans la campagne, les salariés qui sont en lutte. Lorsque on le pousse dans ses derniers retranchements, il nous parle d'Union soviétique. Non.
Donc là, le changement, c'est pas maintenant, c'est pas tout de suite, mais ça va venir, quoi.
Ouais, dans quelques mois, peut-être dans quelques années, mais en attendant, les salariés d'Arkema doivent attendre tranquillement que Klesch dépaisse l'entreprise.
J'attendais de cette rencontre avec le QG de campagne de François Hollande, donc du Parti Socialiste, d'essayer de trouver un point de ralliement avec mes convictions. Malheureusement, je pense qu'une fois de plus, le PS n'est pas au rendez-vous de mes convictions personnelles.
Heureusement que c'est marqué Hollande à la porte, mais si on était à l'UMP, je pense que c'était à peu près le même discours. On nous ressasse continuellement le modèle allemand, et hors micro, en sortant, on nous dit « Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a des Allemands qui ne sont pas payés cher, des fois. »
Donc, tu disais, on pourrait entendre le discours de l'UMP. Bah, ouais. On va aller voir l'UMP tout de suite.
On va aller les voir, ouais. Comme ça, on va être fixé. Comme ça, on saura après répéter aux salariés tout ce qui nous a été dit.
Siècle, les grands penseurs face à la révolution industrielle imaginent que le prolétariat doit s'unir pour lutter contre le grand capital.
Un jour est né le socialisme pour contrer le conservatisme, pour mettre sa race au capitalisme et niquer bien profond l'impérialisme. En plus puissant que le Jésus-Christ, un putain de beau jour se pointe à le socialisme.
Non, il ne récuse pas la libre entreprise du petit patronat, il n'est pas la hantise. Avec une régulation saine, il évite les crises, il chie sur la spéculation et la roublardise. Et toi, paysan des villes, rentre dans la ronde, sauve les profits mercantiles et viens sauver le monde. Femme de ménage au foyer, tu n'attends plus rien, tu penses que ta vie c'est de la merde depuis que t'as trois gamins. Mais non, le socialisme va donner plein de trucs bien, par exemple la Miss Ferland de Lionel Jospin. Et si jamais un jour tu es très très fort, regarde-le et tu auras moins faim.
Attendez, où est-ce qu'on va là? Quelqu'un a un plan? Je crois que le QG de campagne de Nicolas Sarkozy est 32 rue de la Convention. Je vais vérifier.
Non, il faut qu'on retourne en arrière.
Allez, on fait demi-tour. Là, on approche du QG de campagne de Nicolas Sarkozy dans le 15e arrondissement. Rue de la Convention, on vient de passer devant le ministère des Affaires étrangères.
Bonjour monsieur, bonjour. Nous sommes représentants du personnel de la société Arkema.
Oui.
Et nous avons téléphoné la semaine dernière, on nous a demandé d'envoyer un mail pour être reçu au QG de campagne du candidat Nicolas Sarkozy.
Je vais me renseigner. Arkema, hein.
Arkema, oui.
Oui. Ouverture. C'est pas...
Là, c'est autre chose.
Pardon ?
Là, on est dans le sacro-saint des saints, c'est-à-dire que c'est un candidat, mais c'est pas un candidat comme les autres. Il y a un service d'ordre.
Un bloc-coup, ça va être double
vitrage. Et on a vraiment l'impression qu'on rentre, je sais pas moi, dans l'antichambre de quelque chose qui doit rester opaque. D'ailleurs, les carreaux sont opaques, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur.
Effectivement, à l'entrée, c'est pas un militant, c'est pas une secrétaire, c'est un vigile.
Oui.
Qui se trouve à l'entrée avec une oreillette.
Vous venez, monsieur ?
Oui.
Attendez. Didier vient de rentrer tout seul à l'intérieur. On est devant une porte teintée. On voit pas, devant une vitrine teintée, on voit pas ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas porte ouverte au QG de campagne de Nicolas Sarkozy, quoi.
On a plutôt l'impression d'un club select où il faut la cravate. Et déjà, si on rentre dans le hall, peut-être que ça sera déjà une victoire pour nous.
Moi, je pense qu'on pouvait s'imaginer une QG de campagne. J'allais pas dire que ce soit la bonne franquette où tout le monde puisse rentrer, faire ce qu'il veut, mais avoir au moins un accès à un hall d'entrée, à se présenter, être reçu, pas faire rentrer une personne comme ça en catimini, laisser quatre représentants salariés qui viennent là, c'est uniquement des porte-parole des salariés. Et je veux dire, à un moment donné, on voit vraiment qu'il faut montrer patte blanche. Et on est certes peut-être représentant du personnel, on a certes peut-être une étiquette CGT, mais on est là pour poser des questions à un parti politique sur la contenue de son programme.
Alors Didier ressort, est-ce que c'est pour re-rentrer ?
Malheureusement non. J'ai dû laisser donc comme preuve le mail que j'ai fait la semaine dernière, parce qu'elle doutait même de l'envoi du mail. Donc il a fallu que je lui laisse le document pour attester bien qu'on a envoyé un mail.
Ah, c'est pas facile, hein ? Le dialogue avec la base, le dialogue avec les gens, avec les salariés, avec les vulnérables, avec les menacés, avec vous et moi. C'est pas facile, ce dialogue. Et dans l'autre sens non plus, vous voyez, nos quatre salariés d'Arkema, avec François Ruffin qui les accompagne à travers Paris, c'est pas simple, hein, d'arriver à poser des questions qui le sont pourtant, des questions extrêmement simples. Oui ou non, notre entreprise va-t-elle être vendue à un fonds, un investisseur spéculateur ? Oui ou non ? Nous, l'entreprise et nous-mêmes. La question est simple, elle est claire. Et qu'est-ce que les politiques entendent faire par rapport à ça ? C'est le moment. Les doléances, vous savez, les cahiers des doléances, et c'est resté dans la mémoire de certains Français, de certaines Françaises. Voyons ce que nos pèlerins obtiennent.
Est-ce que tu as pris le programme de Nicolas Sarkozy ?
Ah non, j'ai pas pensé de le prendre.
Et tu veux pas y retourner pour prendre le programme de Nicolas Sarkozy ?
Ouais, je prends.
On pourra regarder s'il y a quelque chose qui vous concerne.
Excusez-moi, je peux rentrer pour demander un exemplaire du programme de campagne de Nicolas Sarkozy ?
Allez-y.
Au revoir. Donc voilà. Donc j'ai deux documents. Un document qui fait état des principales réformes qui ont été mises en œuvre pendant le quinquennat qui s'achève.
Alors attends, on va regarder s'il y a quelque chose qui peut vous aider. La réforme des retraites, c'est pas mal.
Une réforme inique, on l'a combattue.
L'autonomie des universités, ça vous avez dépassé, dépassé cet âge-là. L'interdiction du port de la burqa, elle était déjà interdite sur les chaînes de Arkema. L'instauration des peines planchers contre les récidivistes, la reconduite à la frontière de 30 000 immigrés clandestins, le service minimum dans le transport et à l'éducation nationale, l'exonération des heures supplémentaires. Ah, vous avez gagné quelque chose là, vous avez gagné pendant ce quinquennat l'exonération des heures supplémentaires. Ça, c'est pour vous.
Non, on n'en fait pas, nous, d'heures supplémentaires, et on ne veut pas en faire, on préférerait qu'il y ait de l'embauche.
Il n'y a rien sur l'industrie là ?
Non, il n'y en a aucune. Mais tu sais bien que le candidat Nicolas Sarkozy n'a pas pu faire en 5 ans ce qu'il souhaite faire en 10 ans.
Là, par contre, on a un autre document.
Là, il y a un document, c'est le programme, c'est une ébauche du programme. C'est ce qu'a dit le monsieur à l'intérieur. Il m'a dit que c'est pas le programme. Le programme va sortir dans quelques jours, mais ça, c'est une ébauche. Et la France forte, loi sur l'industrie, dit que c'est une France qui se bat pour conquérir de nouveaux marchés et faire revenir ses usines. Le coût du travail est baissé pour 14 millions de salariés, notamment dans l'industrie et l'agriculture, afin d'empêcher les délocalisations. Donc moi, l'analyse que je peux en faire, c'est que nos employeurs, il va inciter nos employeurs à baisser nos salaires de manière à ce qu'on soit compétitif avec des salariés qui viennent d'autres horizons.
Et donc le pôle vignérique, il restera en France seulement si on baisse suffisamment vos salaires pour que ça reste compétitif, quoi. Alors regarde s'il y a quelque chose qui concerne la finance.
Alors, la délinquance.
La France forte, c'est une France qui prépare l'avenir en transmettant à ses enfants le respect de l'autorité et le goût d'apprendre. La France forte, c'est une France qui ne trouve pas d'excuses aux délinquants.
Là, il parle des délinquants, les voleurs de mobilettes. Par contre, les délinquants en col blanc, comme M. Gary Clèche, qui paye les entreprises, il n'y a rien contre eux, ça.
La France forte, c'est une France généreuse qui accueille mieux les immigrés parce qu'elle assume d'en accueillir moins, donc moins d'immigrés. Mais donc sur la finance, là, il n'y a rien sur la finance.
Non.
Je croyais qu'il allait moraliser la finance, puis il n'y a rien sur la finance.
Ah non, mais ça, c'est la grande déclaration qu'il a faite après la crise. Oui, non, mais ça, c'est... Il a fait jouer le pompier de service. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas d'eau dans son tuyau. Donc le feu a continué de... Non, moi je l'ai gardé le petit truc parce que si d'aventure on avait un rendez-vous et qu'on décidait d'y aller, c'est intéressant d'avoir ça sous la main pour leur dire voilà, aujourd'hui dans le programme de Nicolas Sarkozy, il n'y a rien pour industrialiser notre pays et refaire venir des emplois industriels dans notre pays.
Si, il y a une chose, c'est baisser le coût du travail.
Voilà, donc une fois de plus, c'est appauvrir les salariés pour que les employeurs soient beaucoup plus gras. Je pense pas que c'est comme ça qu'il faille prendre les choses.
Bon Didier, quatrième QG de la journée, on se rend au QG de campagne de François Bayrou. Alors, quels espoirs tu places au 133 rue de l'Université ?
Écoute, un espoir simple d'être reçu. On avait la semaine dernière téléphoné au QG de campagne. On était tombé sur une messagerie, on a laissé un message.
Alors là, on est devant un portail en bois, c'est plus une vitre teintée. Ça ne paraît pas quelque chose d'infranchissable. Mouvement démocrate, François Bayrou 2012.
C'est très champêtre comme QG de campagne.
Dans le hall, il y a des piles de documents pour François Bayrou 2012.
Nous sommes des salariés de la société Arkema. Oui. On a téléphoné, on a laissé un message la semaine dernière sur le répondeur. On est en train de faire le tour des QG de campagne.
Enregistré. Si. Bon. Vous voulez pas que j'enregistre alors ? On se trouve aux Invalides. On sort du QG de campagne de François Bayrou. Bon, on a été bien reçus. On vous a écouté longuement. On n'a pas voulu qu'on enregistre. Mais vous avez été entendu cordialement par quelqu'un de sympa.
Oui, c'est tout à fait ça, tu as bien résumé. Maintenant, ça appelle quand même à certaines réflexions. C'est que même si on est pris à brûle-pourpoint, comme on nous dit, sur un dossier qu'on ne connaît pas, j'ai à un moment donné, sur des questions industrielles, lorsque l'on défend un programme de candidat, on doit avoir des choses à dire.
C'est-à-dire que ça t'interpelle que tu arrives là, tu dises voilà, nous on a un problème industriel et qu'il n'y ait pas...
Il n'y a pas de réponse, je veux dire... Aujourd'hui, on voit que sur la question industrielle, moi j'ai l'impression qu'ils ne se sont pas posés ces questions-là. Donc c'est inquiétant.
C'est ta première fois, Pascal, que tu visitais des QG de campagne pendant une élection présidentielle ?
Ouais, c'est la première fois et j'étais vraiment très étonné, je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, j'imaginais vraiment un QG de campagne comme un lieu d'accueil où on accueille les Français pour leur expliquer le programme du candidat. Et puis c'est pas du tout ça quoi. Il faut vraiment montrer patte blanche pour rentrer.
Tu pensais que t'allais arriver, qu'il allait y avoir un militant qui allait dire voilà, nous on a le meilleur des programmes parce que regarde sur ta boîte, nous on a déjà pensé ça, ça, ça et ça. Ça rencontre la proposition 13. Enfin,
bah, moi j'imaginais qu'il y avait deux côtés dans un QG de campagne. Il y avait le côté où on bosse sérieusement, où on travaille les dossiers, où là, ok, il faut pas aller fanfaronner. Mais je pensais qu'à côté de ça, on avait un accueil des gens qui allaient pas forcément nous dire, nous promettre mon émerveil, mais qui allaient nous expliquer ce qu'il y avait dans le programme du candidat et s'il y avait des choses qui pouvaient correspondre à nos attentes. Mais ça, bah non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas le cas du tout.
Moi je note quand même une chose, sans faire de militantisme aucun envers aucun des candidats quand même, mais c'est qu'il y a un QG de campagne ce matin qui nous a dit, dans votre cas précis, moi, je fais dire la loi. J'ai pas vu ça de la part des autres QG de campagne. On a l'impression qu'ils sont complètement désarmés par rapport à notre problème. C'est franchement, moi je suis très déçu. Tu posais la question à mes camarades, c'est la première fois qu'on fait le tour des QG de campagne. C'est la première fois, mais pour moi ça risque d'être la dernière parce que c'est très très décevant. Quoi. Voilà.
Bon, on va y aller parce que vous avez un train à prendre à la gare de Lyon, donc faut pas trop traîner.
C'était Arkema et les Vautours, second volet du reportage de François Ruffin avec les salariés de l'usine Arkema de Saint-Fons. Merci à Céline Bernardi, Marie Lemaître et Rosette. Merci à tous. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas si j'y suis, ainsi que sur le site là-bas.org. Et puis, vous pouvez aussi nous retrouver sur la page Facebook de l'émission. N'oubliez pas, dimanche 8 avril, jour de mobilisation contre le permis de la plateforme de pétrole en Méditerranée. Il y a beaucoup de manifestations autour du fort de Brégançon, près d'hier, dans le Var, ce dimanche à 14h. Renseignez-vous, il y a un rassemblement également qui a lieu au parc de la Navale, à la Seyne-sur-Mer, à partir de 12h. Allez voir tout ça sur nonauxhydrocarburesenmer.org. À la technique aujourd'hui, Michel Bézikian et Fabien Laléouze. Bertrand Chometon et Franck Aderer ont réalisé cette émission. Modeste et générale, il faut bien le reconnaître. Assisté de Marina Touyez. Et Grigory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de la base où j'y suis. Au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Écoutons un sociétaire de la Maïf nous parler de l'assurance d'essai Assurcap Solutions.
Remarié à 40 ans, un nouveau papa à 46 ans, c'était pas prévu. Alors j'ai voulu que toute la famille soit à l'abri. Du coup, à la naissance de Paul, j'ai augmenté le capital de mon assurance d'essai.
Avec le contrat Assurcap Solutions, vous pouvez augmenter votre capital de 5000 euros en cas d'événement familial comme une naissance, jusqu'à 4 fois pendant la durée du contrat, et ce, sans nouvelle formalité médicale. Maïf, assureur militant. Le contrat Assurcap Solutions est conçu et géré par Parnasse Maïf, filiale assurance vie de la Maïf.
D'abord, j'ai eu Sushi, mon poisson rouge. Mais depuis que j'ai gagné à Euromillion et que j'ai eu Raoul, ma baleine, j'ai acheté un aquarium vraiment plus grand. Bah oui, comme Raoul joue à saute-mouton avec Sushi. Oh, Raoul ! Papa est encore tout mouillé !
Euromillion, et si votre vie devenait infiniment plus riche ?
Tirage Euromillion le vendredi et le mardi. Ce vendredi, jackpot de près de 32 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement.
FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
16h pile poil sur Inter, joyeuse Pâques à tous, on se retrouve lundi à 15h pour la basse, j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Dominique Delaroy. Salut.
Le tracé de la nouvelle ligne ferroviaire Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne a été approuvé par le ministère des Transports. Réseau Ferré de France s'en réjouit car cela va permettre d'accélérer les choses jusqu'à la déclaration d'utilité publique attendue fin 2014. Ce réseau de lignes doit mettre Bordeaux à 2 heures de Paris d'ici à 2017. Toulouse à un peu plus de 3 heures après 2020 au lieu de 5 actuellement et il devrait favoriser également le fret ferroviaire vers l'Espagne. Encore des déclarations d'indignation après la possible annulation de Total pour le naufrage du pétrolier Erika en 1999. Le parquet général de la Cour de cassation propose d'annuler définitivement cet arrêt, mais cet avis n'engage pas la plus haute juridiction française qui doit se réunir sur ce dossier le 24 mai. Eva Joly se dit choquée et s'interroge comment se défaire de l'idée que l'État français cherche à protéger Total, son soi-disant fleuron industriel. Quant aux élus représentant les collectivités locales de l'Ouest de la France, ils se disent aussi inquiets, même si les indemnités reçues de Total ne seront pas remises en cause. Je suis stupéfait et écœuré, réagit Loïc Lemeur, maire PS de Plumeur dans le Morbihan. Les 17 marcheurs d'ArcelorMittal, accompagnés d'une trentaine de militants syndicaux, sont arrivés à Paris et se dirigent en ce moment vers la Tour Eiffel. Ils étaient partis le 28 mars de Lorraine. Ils auront parcouru plus de 300 km à pied pour défendre leurs emplois auprès des populations. Le SNES FSU, principal syndicat d'enseignants des collèges et lycées, appelle à battre Nicolas Sarkozy, un appel lancé à la fin de son congrès à Reims. Nous n'imaginons pas devoir subir pendant encore 5 ans une telle politique, a déclaré lors du discours de clôture Daniel Robin, l'un des 3 co-secrétaires généraux du syndicat. Une alternance politique est indispensable selon lui. Ce matin, sur une radio concurrente, Nicolas Sarkozy s'en était pris à la CGT en accusant Bernard Thibault d'être membre du bureau politique du PC, démenti de l'intéressé qui juge indigne cette attitude. Pierre Laurent, le secrétaire national du PCF, pense que Nicolas Sarkozy perd les pédales et qu'il déshonore sa fonction en proférant de tels mensonges. Tennis, Joe Wilfried Tsonga a porté le premier point à la France dans son quart de finale de Coupe Davis face aux États-Unis. Victoire sur Ryan Harrison en 4-7. Et maintenant, c'est Gilles Simon qui défend les couleurs françaises, Fabrice Abgral.
Gilles Simon sur le court central opposé à John Isner, le géant américain, 2m06, 111 kg, 11e joueur mondial finaliste à Indian Wells il y a 3 semaines, battu par Roger Federer. Et pour l'instant, après 20 minutes de jeu, 3 jeux à 1 en faveur de John Isner. Il est au service actuellement, le géant américain, très impressionnant de puissance. Il faut bien le reconnaître, John Isner. Il mène 3 jeux à 1, il a fait le break, il est au service pour confirmer ce break d'avance pour mener donc 4 jeux à 1. Il a pris le service dans le quatrième jeu de ce premier set. Ça va être compliqué pour Gilles Simon face à John Isner. Je vous le dis, un joueur en pleine confiance actuellement. Ils se sont déjà affrontés 2 fois et à chaque fois, c'est John Isner qui s'est imposé, et notamment il y a 3 semaines à Indian Wells. John Isner face à Gilles Simon. Gilles Simon est 13e mondial. John Isner, je vous le disais, lui, il est 11e joueur mondial. Sur le papier, c'est très équilibré, mais indiscutablement, actuellement, John Isner est légèrement un ton au-dessus de Gilles Simon, qui va tenter quand même malgré tout d'apporter un point à l'équipe de France pour que l'équipe de France mène 2-0 avant le double de demain.
Fabrice Abgral en direct de Monte Carlo. Il est bientôt 16h04. On retrouve tout de suite Quand la musique donne avec vous, Didier Varro. Bonjour.
Ça va bien, Dominique Delarroix?
Ça va bien.
On vous retrouve à 17h pour d'autres informations. À tout à l'heure.
Quand la musique donne...
Rock, musique électro, techno,
chansons, rap.
La musique d'aujourd'hui, en fait, de la musique moderne.
La musique, elle est juste là, comment... C'est une vibration.
Didier Varro.
Elle est née à Clamart, elle est née à Nantes. Elle se réchauffe encore et toujours au soleil de son village corse, Poggio di Venaco. Elle a navigué enfant à bord d'un chaland dans les marais de Brière. Elle se souvient en riant qu'elle aimait faire 7 km dans la nuit noire pour rejoindre la discothèque La Piscine. Elle se souvient de la tombe à la fille dans la forêt de Théié, sorte de brocéliande qui transpire d'histoires révolutionnaires. Elle a été élevée par un tuteur poétique qui porte le nom de Charles Baudelaire. Elle a souvent dit aimer la poésie décadente de Brigitte Fontaine. Elle dit « Je suis une pellicule photo hypersensible ». Elle dit « J'adore me baigner dans la mer en octobre ». Elle est aussi fille d'Ipanema qui a trouvé le sens du mouvement parce que les voyages forment la musique. Elle est cette femme qui chante, qui a trouvé le sens du mouvement en voyageant entre un opéra contemporain inspiré de John Cassavetes et l'âpre génie sensuel des premières chansons de Véronique Sanson. Elle a joué avec la nébuleuse d'Andy ou Andy Warhol, Alain Pacadis, David Bowie, Serge Gainsbourg, devise sur la beauté des laits et sur le genre humain. Elle a aussi sa propre nébuleuse d'esthète où Dominica réveille la mémoire neuve, où l'on peut dire OK Computer avec Radiohead, où n'importe quelle Barbara, n'importe quelle Beatles lui font tourner la tête. Elle chante les amours dysfonctionnels, elle non plus. Elle aime l'amour, l'argent, le vent. Elle aime l'eau, certains animaux, Baya. Elle s'appelle Barbara Carlotti. Elle s'appelle Jeanne Chéral. Deux femmes qui chantent, deux initiales pour deux noms, Carlotti, Chéral, CC. Non, cet après-midi, il ne s'agit pas des conventions collectives, ni même des charges comprises, ni du corps consulaire. C'est Chéral Carlotti sur France Inter, l'endroit pour une drôle de rencontre. Bonjour Barbara Carlotti.
Magnifique.
On a adoré.
Bonjour Jeanne Chéral.
Quelle mise en jambe. Bonjour.
Ça va bien?
Ouais, super.
Petit rituel en ce début d'émission. Jeanne Chéral, une question à Barbara Carlotti. C'est pas la première fois que vous vous rencontrez.
Non, c'est vrai, on se connaît un petit peu.
Vous connaissez un petit peu, mais à 16h09, une question comme ça qui jaillirait en sortant tout juste du RER.
Oui, oui, à l'instant. Oui, en fait, Barbara, c'est... Pour moi, c'est d'abord une voix. C'est une voix qui me touche profondément. Et pour moi, complètement atemporelle, hypersensuelle. Enfin, c'est une voix très importante pour moi depuis son premier album. Et j'aimerais bien savoir, parce que moi, je la place très très haut, ta voix. J'aimerais bien savoir ce que t'en penses, comment tu la qualifies et est-ce que tu l'aimes?
C'est une drôle de question.
Question de chanteuse, typiquement.
Non, je pense que comme elle fait partie de moi, je n'arrive pas à la détacher de moi et la considérer comme quelque chose à part. Mais par contre, elle me donne du travail et des soucis parfois. C'est un peu une lionne, quoi. C'est un peu, j'ai un peu du mal à la dompter, ouais. J'ai toujours eu d'ailleurs un peu de mal à la dompter. Mais c'est la chose que j'aime le mieux travailler. Donc
ouais.
C'est aussi pour ça parce que.
Et t'aimes l'écouter?
Je sais pas ça. Ouais, moi, si, j'aime l'écouter, mais j'aime aussi écouter plein de chanteurs, en fait, et je la dissocie pas. Enfin, je la dissocie pas de moi, donc c'est très compliqué.
Bah oui, bien sûr.
Mais en tout cas, ce que. La chose peut-être la plus significative, c'est que la première fois que j'ai chanté, j'ai eu vraiment des émotions hyper fortes. Ouais, et je pense que c'est ça qui a fait que. Enfin, en tout cas, s'exprimer par la voix, pour moi, c'était quelque chose de très puissant, voilà. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai voulu être chanteuse, d'abord, en fait.
C'est aussi une voix de radio, hein, Barbara Carlotti.
Complètement.
Ouh là là. Barbara Carlotti, la même, une question à Jeanne Chéral. C'est un peu la journée Jeanne Chéral aujourd'hui sur France Inter. Hein.
Oh c'est la journée Jeanne Chanson et Véronique Chéral.
Ouais.
Alors du coup, par rapport à ton projet sur le fait de reprendre Amoureuse de Véronique Sanson, je voulais savoir quel était ton premier souvenir en fait de chanson, enfin ou de ton premier souvenir de Véronique Sanson, le tout premier.
Je pense que c'est les chansons qui étaient sur son album Sans Regret. Donc c'est vraiment pas les chansons des années 70 quoi.
Ouais.
Mais j'étais adolescente à l'époque et je l'ai découverte par Rien que de l'eau, Louise, mon voisin. Enfin c'est et à l'époque je faisais du bal, j'étais chanteuse de bal et je chantais Rien que de l'eau sur scène. Donc c'est
ça mon premier. Déjà, en fait.
Ouais. Mon premier souvenir c'est vraiment ça quoi. Chanter Rien que de l'eau devant des gens qui mangent dans une salle polyvalente.
Tiens donc.
C'est glamour.
Et ensuite, voilà. Il y a eu un retrouvaille avec les racines de Véronique Sanson au fur et à mesure
bah,
du
assez
temps
récemment,
et surtout récemment.
Hein. Ouais, très, très récemment. En fait, je suis allée la voir à l'Olympia l'année dernière. Il y a un an et demi, elle a fait une série de concerts à l'Olympia. Et j'ai été complètement bouleversée, captivée par les chansons qu'elle a interprétées toute seule au piano. Enfin, quand l'orchestre est sorti, en fait, et elle a fait Baïa, elle a fait Amoureuse toute seule au piano. Je me suis dit, mais il faut absolument que je me...